Ben, je me permets de dire mon opinion très simplement. Elle est juste ou elle n'est pas juste. Il faut dire avant toute chose que la révolution était nécessaire. C'est pour cela que, tout jeune, j'étais à côté de Raoul Castro, plus proche du vieux parti communiste que du parti orthodoxe dans lequel son frère a milité. C'est-à-dire qu'il fallait un changement. Je ne dis pas, à ce moment-là, on ne pensait pas de révolution parce que la force des États-Unis était telle qu'on savait très bien qu'il ne permettrait pas. Mais il y a un changement de manière de finir avec la corruption qui existait dans les pays avec l'arrivée des mafieux, etc. La révolution a apporté, et j'étais là les premières années de la révolution, a apporté des choses qui étaient nécessaires et qui sont encore présentes. C'est-à-dire, c'est pas un cliché de dire que la révolution a fait beaucoup pour la santé du Cubain, beaucoup pour la dignité, a fait beaucoup, beaucoup, surtout pour la campagne, pour les paysans cubains. C'est-à-dire, c'est la différence de ces pays qui se disent communistes, c'est que les pays communistes marxistes, comme l'Union soviétique, c'était tout pour les ouvriers. À Cuba, c'est surtout, et au début surtout, vous le savez très bien, tout pour les paysans pauvres, c'est la loi agraire. Il y a encore aujourd'hui des vieilles familles ou des familles paysannes qui soutiennent la révolution. Il y a aussi qu'en face, il y avait la communauté cubaine de Miami qui a beaucoup changé, ça aussi. La communauté cubaine, les exilés de Miami étaient au début, pas comme disait Madame Mitterrand, tous des millionnaires fachos. C'est pas du tout cela, puisqu'il y avait des gens très pauvres et beaucoup de noirs aussi, chose que Madame Mitterrand n'avait pas pris l'objectivité de les voir, puisqu'elle était tellement copine à Fidel Castro qu'elle ne voulait pas voir ça. Mais c'est vrai que dans ces premières années, au moins de 30 ans de l'exil de la communauté cubaine a été extrêmement, par moments, très violente vis-à-vis et menaçante au retour de, par exemple, vider les maisons qui appartenaient à des familles très riches et qui sont maintenant soit des écoles, soit des administrations, vider tout cela pour reprendre le pouvoir. Voilà. Ces menaces-là, qui sont totalement stupides, faisaient peur au peuple, aux gens qui habitaient dans les lieux qui avaient été habités par des personnalités ou des personnes qui étaient parties. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la population cubaine qui soutient encore la révolution cubaine. Voilà. Et il y a une grande partie, bien entendu, qui sont contre. La dissidence cubaine existe, on le sait, on connaît les noms. Mais entre les deux, il y a d'un côté la préoccupation du Cubain de qu'est-ce qui se passe après. Est-ce que les gens de Miami vont faire le retour? Et ça dépendra aussi du président des États-Unis. Tout dépend aussi à Cuba de qu'est-ce qui va se passer dans les élections prochaines. À mon avis, si Obama revient au pouvoir, je pense qu'il est possible pour lever l'embargo. Mais si c'est des républicains qui sont très, très, très conservateurs, ça sera pour Cuba même un problème grave, parce qu'ils vont essayer de produire à Cuba un mouvement d'opposition et tout ce que nous désirons, les Cubains de l'exil qui ont un sentiment d'amour pour l'île, tout ce que nous désirons, c'est qu'il n'arrive pas à Cuba une démarche violente, parce que Cuba, c'est une île, et dans une île, la violence devient extrêmement, extrêmement forte et extrêmement meurtrière.
Est-ce que vous avez l'impression quand même que le mythe est quelque peu essoufflé et que justement il y a un risque éventuellement, selon qui est au pouvoir aux États-Unis, qu'une violence s'exerce sur l'île ou contre l'île?
Il y a un grand malaise dans les pays, tout le monde le dit, parce que la misère est profonde, et plus profonde, étrangement, à la campagne que dans les villes. Et en plus, et tout de même, les nouvelles arrivent à Cuba d'une manière ou d'une autre. Et savoir qu'en Afrique du Nord, les dictateurs, les tyrans ou les hommes forts du pays sont en train de sauter les uns derrière les autres, et ça peut donner des idées. Ça donne des idées, d'ailleurs. Dans les mails que je reçois, parfois, de l'exil cubain et des Cubains de l'intérieur, les tons changent peu à peu. Dans le sens de que, attention, il peut un jour avoir une explosion à partir de l'intérieur. Et c'est là où je dis que ça me préoccupe parce que ça sera un bain de sang. Mais d'un autre côté, ça dépend aussi de qui sera le prochain président nord-américain. Je répète, si c'est Obama et Mme Clinton et la compagnie actuelle, c'est toujours bien plus modéré de que ça sera un gouvernement républicain fermé et revanchard aussi, qui demande la fin du gouvernement de la famille Castro, parce qu'il faut dire la vérité, c'est presque comme en Corée du Nord. Les fils héritent du père, et là, c'est le frère, le petit frère qui a hérité du grand frère. Donc, ça existe, cette préoccupation, ça existe, cette possibilité. Il faut attendre que ça n'arrive pas à la violence et que les choses puissent régler d'une manière pacifique, d'une manière politique, d'une manière humaine, et je dirais même les mots, de manière chrétienne.
Alors, parlons de ces idées qui peuvent venir des révolutions arabes. Dans ces révolutions arabes, l'accès à Internet, le rôle d'Internet a été prédominant.
Vous savez, 80 personnes ont été condamnées à 30 ans de prison. N'oublions pas, 30 ans de prison pour avoir un ordinateur. Voilà, cadeau soi-disant de l'impérialisme yankee. Il y a une certaine ouverture, il y a des gens qui peuvent envoyer qui ont des blogs, comme Joana Sanchez, la blogueuse, la célèbre blogueuse cubaine, mais il y a très peu, ça n'a pas cette influence qu'il y a dans l'Afrique du Nord, où même les pauvres peuvent accéder à un moment donné, à travers un café, Internet, d'avoir l'Internet. Ça, ce n'est pas le cas. L'influence de l'Internet est beaucoup moins, à mon avis, selon ce qui me dit toutes les personnes qui viennent de là-bas, que dans l'Afrique du Nord.